On voit comment que quelqu'un connaît Jésus. On voit les tribulations par lesquelles il est passé. Donc, c'est un très bel événement. Mais la question que je vous pose ce matin, c'est quoi le baptême? Plouche? C'est tout? Non. Il y a l'obéissance à la parole de Dieu. C'est une chose. Mais dans un baptême, on voit aussi quatre événements. C'est un seul événement, mais dans le baptême, on voit quatre choses, quatre actions différentes. On voit quatre actes. Et j'ai skippé. On voit quatre actes, effectivement. Je vais revenir à ce que je voulais dire sur le baptême. Désolé. Donc, le baptême, qu'est-ce que le baptême? Le baptême est un acte de l'Église qui affirme et représente l'union d'un croyant avec Christ en l'immergeant dans l'eau. Et l'acte d'un croyant qui s'engage publiquement envers Christ et son peuple, unissant ainsi un croyant à l'Église et le séparant du monde. Le baptême, c'est le moment où ce que la foi d'un croyant devient publique. C'est le moment où l'Église endosse la déclaration de foi d'un croyant. Donc, un matin, on n'a pas assisté à un bain public de la part de Maxime ou un beau moment dans la vie de l'Église. Non, ce matin, enregistrez bien qu'on a assisté. Ce matin, enregistrez bien que nous affirmons que Maxime Roy reconnaît Jésus-Christ comme son sauveur. Donc, comme je disais tantôt, dans le baptême, on voit quatre actions complètement différentes. Quatre actions différentes. Je vais skipper celle-là. J'avais mis la définition que j'avais donnée du baptême. Je vais la remettre, je vais la relire pour vous autres. Voilà. Le baptême est un acte de l'Église qui affirme et représente l'union d'un croyant avec Christ en l'immergeant dans l'eau. Et l'acte d'un croyant qui s'engage publiquement envers Christ et son peuple, unissant ainsi un croyant à l'Église et le séparant du monde. Donc, comme que je disais, dans le baptême, il y a quatre actes différents. Et le premier, c'est la déclaration de foi. Puisque je viens de dire que le baptême est un événement public, il en va de soi qu'on doit avoir une déclaration sur quelle base la personne se fait baptiser. Jésus nous demande de se faire baptiser. C'est là aussi un pas d'obéissance qui vient d'être fait ce matin. Et Jésus aussi a été baptisé. C'est vrai, par exemple, que Jésus, lui, il n'a pas donné son témoignage avant de se faire baptiser. En fait, il s'est peut-être même un petit peu obstiné parce que Jean-Baptiste ne voulait pas le baptiser. Il disait « Non, 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 c'est à toi de me baptiser, pas à moi de le faire. » Mais le Seigneur dit « Fais ce que tu as à faire. » Et il a été baptisé. Et à ce moment-là, l'Évangile de Matthieu, Marc et Luc nous rapporte que le ciel s'est occupé de faire le témoignage. « Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Dans Marc et Luc, on peut lire « Tu es mon Fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. » Maxime, excusez. Aussi, on peut voir dans l'Évangile selon Jean qu'on a aussi un témoignage supplémentaire qui nous vient de Jean-Baptiste. Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. J'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Maxime nous a déclaré reconnaître Jésus-Christ, que Jésus-Christ est la vérité et le seul chemin qui mène à Dieu. Malgré les épreuves et les difficultés qu'il a rencontrées, il a reconnu que se tourner vers Dieu, c'était la chose à faire. Il a mis au pied de la croix ses péchés et a déclaré que Christ est le roi, le Seigneur et le sauveur de son âme. En déclarant ton allégeance ce matin à Dieu, tu viens déclarer la guerre à ta vieille nature. Tu viens déclarer la guerre à tes désirs qui sont contraires à la parole de Dieu. Les désirs de la chair, c'est comme ça que la Bible les appelle. Tu as aussi déclaré la guerre au monde, ceux qui renient Dieu, ceux qui ne veulent pas connaître Dieu. Ils sont ennemis de Dieu. Dieu, c'est ça, ils sont ennemis de Dieu. Mais sois sans crainte, parce que dans Romains 8, 31, on lit, « Puisque Dieu est pour nous, qui sera contre nous? » Et ça va aussi un peu plus loin, ça dit, « Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? » C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce les tribulations ou l'angoisse ou, la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Rien de tout cela, puisque Dieu est pour nous. Qui sera contre nous? En effet, Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort sur la croix pour nos péchés. Ça nous amène à notre deuxième acte, un enterrement. Oui, dans le baptême, on symbolise l'enterrement. L'immersion dans l'eau représente la mise en terre de notre vieille chair, de notre vieille nature, le « nous » qui ne connaissait pas Dieu puis qui vivait par sa propre sagesse avant de connaître Dieu. En immergeant le corps, c'est comme si on mettait la vieille nature dans la terre. Jésus est mort sur la croix et son corps a été placé dans un tombeau. Par l'immersion, on représente cette mort de la vieille nature car nous avons été crucifiés avec Christ. Et si nous vivons, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Non seulement Christ vit en nous, mais c'est comme... Excusez, le stress. Non seulement Christ vit en nous, mais nous sommes aussi en lui. Dans le jardin de Gethsémané, avant d'être livré et d'être crucifié, Jésus a prié le Père. Il l'a prié comme suit. « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie. » Eux ici désignaient les disciples, les apôtres. Mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Jésus est un avec le Père, et nous sommes en Jésus-Christ. C'est là la source de notre force pour lutter contre notre nature pécheresse. Nous sommes dans le Fils, et le Fils a vaincu la mort. Ce qui nous amène à notre troisième acte, qui est la résurrection. Lorsque le corps est dans l'eau, il est entièrement recouvert et il n'y a aucun contact avec le dehors. Est-ce vrai? Bon, ce matin, malheureusement, à cause de la pandémie, c'est vrai. Max était tout seul dans l'eau. Mais généralement, il y a quelqu'un qui le descend dans l'eau et qui le remonte. Mais c'est deux mains qui le tiennent. C'est comme Jésus qui nous arrache de la mort spirituelle pour nous donner la vie. Lui, il a connu la mort. Il a souffert la colère de Dieu. Non pas pour lui, parce qu'il était parfait en toutes choses, mais pour nous. Christ n'avait pas besoin de mourir, il était sans péché, il n'avait commis aucune offense contre Dieu. Mais au contraire, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Allah, Bouddha, Mohamed, Krishna, nommez-les. Il n'y a pas un de ces noms-là qui vous dérange ce matin. Même Dieu, ça ne vous dérange pas tant. Mais lorsqu'on parle de Jésus-Christ, quelque chose en dedans de nous autres ne veut rien entendre. Quand vous parlez de Jésus aux gens, non. Ils ne veulent pas. Il a le nom qui est au-dessus de tout nom. Son seul nom se fait être un témoignage en soi et rend les gens mal à l'aise, car il est la vérité. Seulement celui qui a connu la mort a le pouvoir de nous sauver de celle-ci. En Christ, on a la vie éternelle dans la présence de Dieu. J'en arrive maintenant à notre quatrième acte. Et cet acte-là, c'est le verdict. Oui, un verdict. C'est solennel, un verdict, c'est sérieux. C'est généralement prononcé par un juge pour dire s'il y a acquittement ou s'il y a sentence. Ou par un juge pour dire si c'est bon ou si c'est pas bon. 6, 9.5, 10. Mais on respecte tout le temps le verdict d'un juge. Ce matin, uniquement basé sur ta déclaration de foi, Maxime, la parole de Dieu a un verdict sur toi. Non coupable. Non coupable. Parce que Romains 8:1 nous dit « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Ça signifie qu'il n'y a absolument aucun reste de sentence ou restant de dette à payer. Jean 1:29 nous dit que nos péchés ont été ôtés. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, s'est écrié Jean-Baptiste en voyant Jésus. Acte 3:19, qu'ils ont été effacés. Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés. Acte 22:16, et maintenant qu'ils ont été lavés, exact, et maintenant que tardes-tu, lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Et on peut lire aussi dans Romains 4:7 qu'ils sont couverts, nos péchés sont couverts. Heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Avant de continuer, je vais juste faire une parenthèse sur le verset précédent. J'aimerais juste spécifier que ce matin, l'eau n'était pas magique ni mystique, puis ce n'était pas de l'eau bénite, c'est de l'eau du robinet bien normale. Ce n'est pas le fait de l'avoir plongé et ressorti qui l'a lavé de ses péchés. Mais si vous voyez bien le verset, c'est écrit « en invoquant le nom du Seigneur ». C'est par Jésus-Christ et par son sang qui a coulé sur la croix que nous sommes lavés de nos péchés. Donc, nos péchés ont été ôtés, effacés, lavés et couverts. Wow! Mais pourquoi c'est pas wow dans nos vies à chaque jour? Probablement que certains d'entre vous vivent avec des souvenirs de péchés qu'ils ont commis ou de fautes qu'ils ont commises qui ont eu des grands impacts dans leur vie ou dans la vie de d'autres personnes. Certains de ces souvenirs-là peuvent vous hanter. Et puis, encore aujourd'hui, vous n'arriverez pas à avoir la pleine satisfaction du pardon de Dieu pour ces choses que vous avez faites. Ça vous empêche encore aujourd'hui de vivre librement et pleinement votre relation avec Christ. Pour certains d'entre vous, vous avez juste arrêté d'avancer. Pour d'autres, vous vous êtes détourné. Arrêtez de penser que vos péchés sont plus grands que l'œuvre de Jésus-Christ sur la croix. Arrêtez de ressasser le passé. Dans Hébreux 8 au 12, le Seigneur a dit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités et que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Il a payé. Tout est couvert. Notez bien que ça s'applique à ceux qui sont en Jésus-Christ. Comptez-vous pas d'histoire. Il n'y a pas une salle de punition au ciel où est-ce que vous allez passer X nombre de temps pour payer pour les péchés que vous avez faits, puis après ça, vous allez recevoir votre petite auréole puis vos petites ailes. Il n'y a pas de place comme ça au ciel. Pour aller au ciel, il y a un seul moyen, croire que Jésus-Christ est mort sur la croix à notre place. Sans la foi, il n'y a pas de ciel. Peu importe ton péché ce matin, par le sang de Jésus-Christ, il n'y a aucune condamnation. Cette seule vérité devrait nous transporter à chaque jour pour la grâce qui nous est offerte et qui est toujours offerte. Dieu n'a rien contre nous, car il a déjà puni Christ pour tous nos péchés, passés, présents, futurs. Présent, je n'ai pas de péché. There you go, je vous présente l'orgueil, ce n'est un. Même si nous péchons encore, nous ne sommes plus condamnés. Que la grâce ne soit pas un billet gratuit pour vivre dans le péché, par exemple, puis que ce ne soit jamais ça. La loi a été satisfaite en toutes choses et la colère de Dieu a été apaisée par le sang de Christ. Nous savons que si nous restons en Christ, il est une forteresse invincible pour nous garder du péché. Pour ceux qui sont en Jésus, il n'y a que pardon et amour divin. Jésus a tout payé et à lui, nous devons tout. Saisis ta liberté aujourd'hui. Si tu t'es arrêté ou si tu t'es détourné, retourne à la recherche de ton Sauveur à travers la parole et la lecture de la parole de Dieu. Si tu ne connais pas Jésus personnellement aujourd'hui, le temps, c'est maintenant. Pas demain parce qu'il faut que tu y penses. toute façon, il y a quoi à penser? La vie éternelle en la présence de Dieu. Et lorsque nous serons morts, et nous serons au ciel en sa présence, dans un corps renouvelé, exempt de péché, de tentation, de maladie et de souffrance. Il y a quoi à réfléchir là-dessus? La décision, c'est maintenant. Reconnais que Jésus, Christ, est le Fils de Dieu et que seulement lui, et que seulement par lui, tu peux avoir le pardon de tes péchés. Que tu sois un chrétien qui vient de se faire baptiser, qui commence une vie, que tu sois un chrétien que depuis longtemps tu suis le Seigneur, ou si tu ne connais pas le Seigneur, retourner vers la parole, c'est ce qui nous garde fort devant le Seigneur, c'est ce qui nous pardonne de nos péchés. Et comme que j'ai dit à plusieurs reprises, il n'y a aucune condamnation pour celui qui suit Jésus. Prions. Merci Seigneur Dieu pour ton œuvre, merci pour Jésus-Christ. Seigneur, tu as fait une première alliance avec l'homme, tu as donné la loi, les 10 commandements. Et seulement ces 10 choses étaient là pour nous montrer à quel point nous étions incapables de satisfaire ta sainteté. Et Seigneur, devant notre incapacité, tu nous as envoyé Jésus-Christ, ton Fils unique, qui est venu mourir et s'offrir librement et gratuitement sur la croix, et que par lui, par son œuvre, nous sommes réconciliés avec toi, et nous pourrons passer l'éternité en ta présence. Merci pour cette grâce qui est offerte encore, jusqu'au jour où tu reviendras. Par le Saint-Nom de Jésus-Christ. Amen.